Chapitre 11. Geneviève avait l'habitude de ne rien cacher à sa mère et de lui dire tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle désirait. Jusqu'à ce moment, ces différents « tout » n'avaient pas eu grande importance. Ce n'étaient que les « tout » d'une petite fille, d'une enfant. Mais voilà que de l'enfant faisait une jeune fille, presque une femme, et ce qu'elle avait à répéter à sa mère n'était plus la même chose. Il n'y avait pas en elle d'irrésolution sur le parti qu'elle devait prendre. Jamais elle ne consentirait à se laisser épouser par le marquis d'Arlanzon. Mais, au contraire, il y en avait de terribles sur la conduite qu'elle devait tenir. Pendant que sa belle-sœur parlait, sa première pensée avait été de demander aide et protection à sa mère, comme elle le faisait pour tout. À elles deux, elles empêcheraient bien ce mariage, car elle était certaine à l'avance que sa mère n'en voudrait pas plus qu'elle. Mais, après le premier émoi calmé, elle s'était demandé si elle devait imposer cette confidence à sa mère. Et c'était cette question qu'elle agitait pendant que Clara continuait à énumérer les raisons, toutes plus fortes les unes que les autres, qui devaient la décider à ce mariage. Certainement, sa mère s'unirait à elle et cette alliance lui donnerait plus de force. Ce serait sa mère qui dirigerait la résistance, qui ferait tout. Mais c'était cela précisément qui causait son embarras et son inquiétude, car appeler sa mère à son aide, c'était la jeter dans la lutte avec toute sa famille, sa belle-sœur et ses deux frères d'abord, puis, ensuite, avec son père aussi, sans doute. Depuis qu'elle était en âge d'observer et de raisonner, elle avait vu les sacrifices que sa mère s'imposait pour ne jamais contrarier ou gêner Sébastien et Frédéric, et comme elle en était récompensée, ne trouvant que le dédain ou des rebuffades pour ses bontés, traitée à propos de tout en étrangère, avec défiance quand ce n'était pas avec mépris. D'autre part, elle avait vu et elle voyait chaque jour comment sa mère était avec son père, quelles attentions, quelle prévenance elle devait avoir pour qu'il ne se plaignît point ou ne se fâchât point, et cependant, comme malgré tout, il était sévère pour elle, dur et même bien souvent injuste. Pendant longtemps, elle n'avait pas voulu se faire juge entre son père et sa mère, fermant les yeux à ce qu'elle voyait, les oreilles à ce qu'elle entendait, son esprit à ce qu'elle comprenait, se reprochant même de voir, d'entendre, de comprendre, s'accusant d'être une mauvaise fille. Et ce qui l'exaspérait contre elle-même, c'était qu'elle trouvait toujours les torts du côté de son père. Cela n'était pas vraisemblable, se disait-elle dans sa justice enfantine. Pourquoi cela? Elle n'aimait donc point son père comme il méritait d'être aimé, lui qui, à chaque instant, parlait de sa tendresse, de sa sollicitude, de son dévouement pour elle. Combien de fois lui avait-il dit « Que deviendrais-tu, ma pauvre petite, si je n'étais pas là ?» Dans de pareilles conditions, alors qu'elle avait toujours cherché à mettre sa mère à l'abri des difficultés et des querelles, devait-elle lui demander sa protection pour une affaire qui, sûrement, serait une source de difficultés et de querelles bien plus graves encore? Pourquoi n'essaierait-elle pas de se défendre toute seule? On voulait qu'elle fût aimable avec le marquis d'Arlanzon. Elle n'avait qu'à être désagréable. Souriante, gracieuse, elle n'avait qu'à être indifférente ou grognon. En sonnant à la porte de sa mère, son plan était arrêté. Elle ne dirait rien. Elle ne voyait pas d'inconvénient à se taire, et il y en avait tant à parler. Son embarras, son seul ennui, était de cacher quelque chose à sa mère, d'avoir un secret. Aussitôt que Clara fut partie, Madame de Bussidan interrogea sa fille, car son inquiétude était encore plus vive ce jour-là qu'elle ne l'avait été la veille. « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Où avez-vous été ?»«
Simplement sur les boulevards. »
« Pour des chapeaux, pour des robes ?»«
Non, il n'a pas été du tout question de chapeaux, de robes, de bijoux. »
« Et de quoi donc avez-vous pu parler ?»«
Elle a parlé du marquis d'Arlanzon. »«
Ah oui, le marquis d'Arlanzon, son Altesse, le comte, le baron, tous personnages qui tiennent une grande place dans ses discours et ses soucis. » Le lendemain, Clara, en se promenant, recommença ses discours sur le marquis et Geneviève ne lui répondit pas plus qu'elle ne lui avait répondu la veille. « À quoi bon ?
Ce n'était pas ce qu'elle dirait qui changerait les idées de sa belle-sœur sur ce beau mariage. Elle n'avait qu'à attendre qu'elle se trouvât en présence du marquis. Cela ne tarda pas à se produire. Elle fut demandée pour jouer chez la duchesse de Villa Garcia, qui, dans son hôtel de la rue François Ier, réunissait tous les dimanches quelques femmes à la mode et un petit cercle d'hommes brillants, surtout des étrangers. Pendant les 5 ou 6 années qu'elle avait passées en Espagne auprès de son mari, elle avait connu le marquis d'Arlanzon et celui-ci était resté l'un de ses fidèles. Il n'était pas dans le caractère de Geneviève d'être émue lorsqu'elle allait jouer chez les gens du monde. L'émotion, c'était bon devant des artistes, mais dans les salons, on lui avait adressé tant de questions naïves et fait tant de compliments à côté qu'elle ne se mettait pas en peine pour ce public. Ce jour-là, cependant, elle se sentit troublée et presque tremblante quand, au bras de son père, elle fit son entrée dans le salon de la duchesse. Fille d'un peintre et parisienne, Madame de Villagarcia n'avait pas, avec les artistes, les airs de prétention ou de supériorité qu'affectent certaines gens du monde. Elle accueillit donc Geneviève avec une affabilité qui fut d'autant plus rassurante pour celle-ci que le marquis n'était pas arrivé. Ne viendrait-il pas? Cela l'aurait joliment soulagée. Mais elle ne garda pas longtemps cette espérance. Elle vit le marquis s'avancer vers elle avec son air sucré. Bien qu'elle ne fût pas en situation d'observer ce qui se passait, trop émue pour cela, et aussi se sentant trop enfant pour démêler ce qu'il pouvait y avoir sous une physionomie d'homme du monde, et sous son intention, comme dans ses regards et son attitude, il lui sembla que le marquis se tenait sur la réserve, comme s'il attendait quelque chose d'elle. Si ce qu'il attendait était ce que Clara avait demandé, le moment était venu pour elle d'affirmer clairement ses dispositions. Bravement, elle affecta de ne pas le regarder, et quand il lui adressa la parole, de ne répondre que ce que la stricte politesse exigeait.